Bonjour à tous, chers auditeurs. Moi, c'est William. Bienvenue dans ce troisième épisode de Subculture, une histoire de la musique actuelle. Je vais donc tout au long de cette série retracer l'histoire des genres musicaux populaires que l'on connaît aujourd'hui, en accent sur les styles d'origine anglo-saxonne. Autant parler de ce que je connais. Bien sûr, ces genres de musique tirent leur base de sonorités du monde entier. J'en parlerai, mais ferai sûrement une autre série sur l'histoire des musiques d'autres pays pour pouvoir me focaliser plus sur celle-ci. En attendant, voyons d'où viennent le rock, le rap, la techno ou la house. Comment sont-ils apparus? Pourquoi? Dans quel contexte? Et comment tous ces styles ont influé sur la scène musicale francophone? C'est ce que nous découvrirons dans cette émission. Je ne vais pas pouvoir parler de tout en détail, mais je sais que vous m'excuserez si je semble oublier certaines choses. Ceci est une synthèse se focalisant sur les genres et styles alternatifs, underground, ce que l'on appelle les sous-cultures, d'où le nom de l'émission. Bien sûr, j'aborderai un peu le mainstream, le commercial, mais ce qui m'intéresse le plus ici, ce sont les rebelles de la musique, qu'ils soient révolutionnaires au sens politique du terme, mais aussi purement musical et technique. Aujourd'hui, après avoir parlé du blues, poursuivons avec le jazz. Le jazz est né à la fin du 19e siècle, dans les communautés afro-américaines de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, aux États-Unis bien sûr. Elle puise ses origines dans le blues, et toutes ses influences, nous l'avons vu, comme le ragtime, la folk, la musique spirituelle afro-américaine, la musique d'Afrique de l'Ouest, la musique caribéenne et les musiques classiques. Certaines sources pensent que le mot jazz est tiré de jazm, un mot d'argot des années 1860 signifiant l'énergie, le peps. Certains définissent le jazz par certaines caractéristiques telles que l'utilisation très fréquente de l'improvisation, de la polyrythmie, de la syncope, du shuffle, du scat ou encore des notes bleues. Mais en réalité, le jazz est un genre très large, un groupement de nombreux styles. On devrait même dire les jazz au pluriel, plutôt que le jazz, car il a beaucoup évolué en plus d'un siècle, chacun y apportant sa patte en fonction de l'époque et du milieu géographique ou social. Mais revenons à ses origines. Le jazz est donc né, comme je le disais avant, d'une rencontre entre plusieurs genres et styles. On pourrait même dire, pour faire simple, qu'il est né d'un métissage entre la musique blanche, d'origine européenne, et la musique noire, d'origine africaine. Les Africains amenés dans les colonies, dont bien sûr les États-Unis, en tant qu'esclaves, venaient principalement d'Afrique de l'Ouest et du bassin élargi du fleuve Congo. Issus de peuples très musicaux, ils y ont apporté leur rythme et leur structure de call and response, appel et réponse en français. Rappelez-vous les épisodes sur le blues. Ils y chantaient et battaient des rythmes pendant leur travail dans les champs. Et une fois par an, certains avaient le droit de faire une fête. Ils se sont mis à apprendre et à jouer des instruments européens tels que le violon. Les esclaves se moquaient des esclavagistes blancs et leur musique, inventant même une danse, le cakewalk. Ne comprenant pas que c'était une parodie, les blancs se sont eux-mêmes mis à parodier les noirs, organisant des spectacles où ils imitaient cette danse et se grimant le visage en noir, le blackface. C'était ce que l'on appelait les minstrel shows, ironiquement satirisant une danse qui les satirisait eux-mêmes. En 1866, après la fin de la guerre de sécession opposant le sud des États-Unis esclavagistes et le nord qui y était opposé, l'esclavage est aboli. Les Afro-Américains arrivent à se procurer des percussions et des flûtes qui avaient servi aux armées. Ils commencent à jouer des styles de musique très syncopés, dansant, en s'inspirant des chants de travail et des chants religieux. Mais ça, nous l'avons déjà évoqué également pour le blues. Au milieu du 19e siècle, Louis Moreau Gottschalk, compositeur blanc de Nouvelle-Orléans, adapta des rythmes et mélodies caraïbéennes au piano, en musique de saloon, faisant de la Louisiane un point de rencontre entre la musique afro-américaine et la musique afro-caraïbéenne. Mais à cause de la ségrégation en place à l'époque, les Noirs peinent à trouver du travail. Il n'y a que dans les champs qu'on veut bien les embaucher, et pour une misère. Dans les champs, mais aussi dans le champ, la musique, où certains arrivent à faire carrière. Ils se font embaucher pour se produire dans des lieux de danse, les minstrel shows, ou des théâtres vaudevilles. Beaucoup apprennent le piano et jouent dans des bars, des clubs ou des maisons closes. Dans les communautés noires et métisses, existaient, et existent toujours d'ailleurs, des marching bands, des fanfares, qui participaient notamment aux funérailles, jouant de la musique en marchant pendant la procession funéraire. On appellera cela plus tard des jazz funerals. C'est de ces groupes ambulants que le jazz prit principalement ses instruments, à savoir les cuivres, trompettes, trombones, tuba, les vents, flûtes, saxophones ou les batteries et autres percussions. W.C. Handy, que nous avons évoqué dans les épisodes précédents, s'intéresse énormément au blues. Il développe sa façon de jouer de la guitare en tapant sur les cordes et explore les possibilités de l'improvisation. Son Memphis Blues et St. Louis Blues deviendront des standards du jazz plus tard. Très vite, au début du XXe siècle, les concerts de jazz sont joués à Storyville, un quartier rouge de la Nouvelle-Orléans. Au début 1914, les musiciens créoles et afro-américains se produisent donc dans des spectacles de vaudeville, amenant ainsi ce genre aux oreilles du public des villes du nord et de l'ouest des États-Unis. De nouvelles sonorités arrivent aussi, on ajoute ou remplace certains instruments, tels que des guitares, des banjos, des pianos, on remplace les tubas par des contrebasses. Mais revenons en Nouvelle-Orléans, où le leader d'un groupe ambulant de jazz, Papa Jack Lane, un blanc, fait jouer des musiciens blancs aux côtés de musiciens noirs et de musiciens latinos, créant une fusion entre toutes ces sonorités. Beaucoup de critiques viendront à son encontre, mais Lane restera fidèle à lui-même et continuera, considérant que la musique, c'est pour tout le monde. Il sera considéré comme le père du jazz blanc, ayant découvert et fait jouer dans son groupe de nombreux musiciens, désormais stars de ce genre musical tels que George Brunies, Sharky Bonanno ou les futurs membres de l'Original Dixieland Jazz Band, un groupe formé en 1916, exclusivement composé de blancs, qui seront les premiers à enregistrer un morceau de jazz en 1917. Plus tard, on appellera ses premiers jazz le Dixieland. À partir de cette année 1917, beaucoup de musiciens de Dixieland, ou Hot Jazz comme on l'appelait parfois, partent vivre au nord du pays, notamment à Chicago, où peu à peu naît le Chicago Style. La contrebasse y est quasiment tout le temps utilisée, le tempo s'accélère, on emphase sur les musiciens solistes, on entend de plus en plus de saxophones. Une des figures notables de cette époque est Louis Armstrong, une légende du jazz, trompettiste de renom, qui lui aussi a commencé sa carrière dans le quartier rouge Storyville de Nouvelle-Orléans, avant de venir à Chicago où il s'est vraiment fait connaître du grand public. Les salles de danse ouvrent en masse, on y joue du jazz, qui adopte un rythme 4-4 plus approprié pour danser justement. De plus en plus de musiciens se lancent dans des carrières, on peut enfin vraiment vivre de ce métier. L'ère des big band commence, et celui du style qu'on appelle le swing naît au milieu des années 20. Cette époque est aussi marquée de la prohibition, bière ou l'alcool étaient interdits aux États-Unis, résultant d'une montée des fêtes clandestines et des gangs à l'image d'Al Capone que nous connaissons tous, qui d'ailleurs payait souvent pour privatiser des clubs de jazz où Armstrong se produisait pour lui. Mais revenons-en au swing, qui connaît son véritable essor à partir des années 30. C'est aussi le style de jazz qui s'est vraiment répandu au sein des populations blanches. C'est vraiment l'âge d'or de ces big bands qui ont commencé à apparaître dans la décennie précédente, les plus notables étant sans doute ceux de Duke Ellington, de Count Basie ou de Cab Calloway. Le swing, avant d'être un genre de musique, est surtout un état d'esprit, un rapport à la musique. C'est une certaine joie de vivre, un certain type de rythme. On peut dire d'ailleurs d'une musique a priori sans aucun rapport avec ce style, qu'elle swing. L'art du swing ne dure qu'une décennie, mais cette musique ne mourra pas pour autant. Elle s'est exportée dans tout le monde occidental. Durant la guerre, les gens ont besoin de se changer les idées. Ils vont danser dans des cabarets et clubs, et après-guerre, ce sera la bande-son de l'émancipation festive, que ce soit aux États-Unis dans les clubs d'Harlem ou de Louisiane, ou en France, dans les caves de Saint-Germain-des-Prés, si chères à Boris Vian et aux existentialistes. Mais en France, Paris n'est pas le seul lieu où le jazz se développe. Un des autres chefs-lieux est Limoges. Quoi ? Ah si, j'ai bien lu, pardon. J'ai juste pas l'habitude d'entendre qu'il s'est passé des choses à Limoges. Avec son hôpital qui accueille beaucoup de militaires états-uniens pendant la Grande Guerre, qui ramène avec eux le goût du basket, du charleston et du swing. Entre deux guerres, les Limougeauds continuent à faire grandir en eux le goût du jazz. Avec la Seconde Guerre et l'occupation, ils en ont plus que jamais besoin pour donner un peu de joie de vivre à leur vie. Et dans les années 50 et 60, la ville sera même considérée comme capitale française du jazz, où tous les plus grands passent jouer. Qui l'aurait cru ?
Le morceau s'appelle « Mes amis de Limoges ».
Mais revenons-en à Boris Vian, d'ailleurs qui accordait une grande partie de sa vie au jazz, outre ses autres activités créatives comme l'écriture. Très bon trompettiste, c'est un des artistes de jazz français qui a le plus marqué cette scène.
Un beau matin de juillet, le réveil a sonné dès le lever du soleil. Et j'ai dit à ma poupée, faut te secouer, c'est aujourd'hui qui passe. On arrive sur le boulevard sans retard pour voir défiler le roi de Zanzibar. Mais sur le champ, on est refoulé par les agents. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour voir le défilé. On n'est pas là pour se faire assommer, on est venu pour voir le défilé. Si tout le monde était resté chez soi, ça ferait du tort à la République. Laissez-nous donc qu'on le regarde. Sinon plus tard, quand la reine reviendra, ma parole, nous on reviendra pas.
Tombé amoureux de cette musique à ses 13 ans, en écoutant un titre de Duke Ellington, il se mit à acheter régulièrement les numéros du magazine Jazz Hot, pour se tenir au courant des dernières actualités de la scène. Il s'inscrit au Hot Club de France 3 ans plus tard, pour pouvoir écouter des disques à longueur de journée. Et en 1939, il assiste au concert de son idole, au Parc Chaillot, Duke Ellington. Pour lui, comme il le déclare, la vie sans le jazz serait une erreur. Il accueille 9 ans plus tard Ellington à la Gare du Nord pour l'emmener au Tabou, son club de jazz favori. Vian, comme je l'ai dit plus tôt, avouait une immense partie de son existence à cette musique. Entre ses écrits dans des revues et magazines, ses émissions de radio, et bien sûr ses compositions, qu'il joue entre autres avec son orchestre fondé en compagnie de ses frères. Son roman L'écume des jours, sans doute le plus connu, est d'ailleurs inspiré d'un chorus de Ben Webster, saxophoniste états-unien. Et on y trouve des dizaines de références à des titres ou des artistes de jazz. « style de jazz que Boris Vian joue et enregistre n'appartient pas vraiment au swing, ce qui me permet la transition pour parler du bebop. Bien que ce ne soit pas non plus vraiment son style, mais il fallait bien une transition. Le bebop donc, dont le nom viendrait des chants scat propres au jazz, est un style né dans les années 40. Ça a été une véritable révolution au sein du jazz. Des tempos plus rapides, des phrasés à première vue, ou écoute plutôt, incompréhensibles, plus de place encore à l'improvisation. Même le batteur improvise, la grosse caisse ne sert plus qu'à marquer les temps, mais fait partie des mélodies, des syncopes plus complexes. Le bebop a fait l'effet d'une bombe dans le milieu. Louis Armstrong considérait que ce n'était que des accords bizarres qui ne veulent rien dire, qu'on ne retient pas les mélodies et qu'on ne peut pas danser dessus. Ok, boomer. Et le large public était d'accord. On ne peut pas vraiment danser dessus, comme le swing lors de soirées et de fêtes. L'éclosion de ce style controversé crée même une scission au sein du Hot Club de France. Étant familier des mouvements de gauche, je sais ce que c'est la scission. Mais beaucoup de jeunes jazzmen se mettent à pratiquer et développer ce style, comme un gros doigt d'honneur au jazz qui les a précédés, bien qu'ils en avaient fait partie aussi, se libérant ainsi des contraintes des big bands et de la joyeuseté parfois jugée naïve du swing, dans un monde et un contexte beaucoup plus sombre que représente la guerre puis l'après-guerre, la guerre froide, ou la condition des minorités noires. En sortira d'ailleurs de véritables stars qui ont énormément contribué à la musique, dont Thelonious Monk, immense pianiste, Charlie Parker, saxophoniste de génie, ou encore Miles Davis, trompettiste tout aussi génial. Sans oublier John Coltrane, saxophoniste et clarinettiste qui a lui aussi su largement laisser sa trace dans l'histoire de la musique. Mais la liste serait trop longue pour continuer. Au début des années 50, une nouvelle vague de boppers s'installe. Les artistes, représentés notamment par Fats Navarro, Clifford Brown ou Sonny Stitt, reviennent à plus de simplicité, réduisent les excentricités. Mais de leur côté, des boppers de la première génération, comme Coltrane ou Davis, continuent d'explorer et de repousser les limites du style au milieu des années 50. Ce qui donnera naissance à de nouveaux styles comme le hard bop, le cool jazz, le west coast jazz ou le jazz modal, ou même le free jazz. Le modal est une expérimentation dans le bebop, reprenant des modes rythmiques et mélodiques d'autres musiques plus exotiques ou anciennes, puisant ses inspirations dans la musique tribale, la musique traditionnelle asiatique ou la musique médiévale, laissant une grande liberté d'improvisation et de sonorité. Le West Coast Jazz et le Cool Jazz sont des courants souvent associés. On peut dire que le West Coast Jazz n'est que la dénomination du Cool Jazz joué par les musiciens de Californie. À la base, instigé par Miles Davis à la fin des années 40, ce style devient très vite dominé par les Blancs, à l'instar de Dave Brubeck, dont voici son célèbre Take 5. Thank you. Le hard bop étant une variante plus dure, d'où son nom, du bebop, plus agressif musicalement, il prend ses sources au milieu des années 50 dans un mouvement de reconnaissance par les Noirs américains de leurs origines, le mouvement Black is Beautiful. C'est un retour aux sources de la musique, à l'Afrique. En même temps, c'est une réaction agressive musicalement, donc, au cold jazz qui, pour rappel, est largement dominé par les Blancs. David Rosenthal, un auteur états-unien, nota aussi que c'était un développement naturel à une période où des musiciens reconnus comme Tad Dameron travaillaient et dans le jazz et dans le rhythm and blues. Le hard bop est une variante du bebop qui emprunte donc néanmoins énormément au rhythm and blues et au blues et au gospel, notamment dans les jeux du piano et du saxo. En parallèle, toujours au milieu de ces années 50, on entend les premiers frémissements du free jazz, mais nous y reviendrons. Car apparaît aussi le Third Stream, troisième courant. Mouvement participe de la volonté des acteurs de la scène jazz d'élargir encore plus leurs horizons musicaux. On peut comparer ce mouvement à des travaux de compositeurs comme Claude Debussy, qui visait à renouveler la musique classique en s'inspirant de la musique populaire européenne. Outre-Atlantique, des jazzmen comme Woody Herman ou Mary Lou Williams avaient cherché à concilier jazz et classique. Puis donc, comme je l'ai dit, arrive le free jazz. Charles Mingus, avec ses albums Pithecanthropus Erectus et Tijuana Moods, allait déjà dans cette direction en 56 et 57. Mais la naissance officielle de ce style date plus de 1959 ou 60, avec les albums Dornette Coleman, Something Else et Tomorrow is the Question, ou les deux albums de Cecil Tyler, Jazz Advance et Looking Ahead. Mais la structure des morceaux reste similaire au bebop ou au hard bop. Ornette Coleman déménage à New York, signe chez Atlantic Records et commence une vraie rupture avec ses anciens travaux. Il reste des traces du mode thème-impro-thème, mais plus de grilles. Les harmonies sont impossibles à reconnaître et donc les impros sont illimitées. Il sort en 60 Free Jazz, A Collective Improvisation, et ce disque deviendra le nom du mouvement lui-même. Le free, c'est un peu le summum de la liberté artistique musicale des jazzmen à l'époque, et synonyme de libération culturelle des Noirs américains, libéré des schémas de la musique occidentale et ses rythmes binaires ou ternaires. Comme le bebop était une opposition à la popularité du swing, le free vient comme pour contrer l'intérêt grandissant qu'ont les blancs envers le soul jazz. Et beaucoup d'artistes de renom s'y prêtent et y contribuent, comme Coltrane. Entre nous, je conçois quand même que ce soit quelque chose de très difficile à écouter. Mais de grands noms en ont été aussi inspirés, comme Miles Davis, Tim Buckley, ou encore Frank Zappa. Et ces grands noms m'amènent aux années 60, et surtout 70, où le jazz fusion est né et explose. On associe tout au jazz, comme l'ont fait avant les acteurs du Third Stream avec le classique. On allie jazz et musique latine pour faire du Latin jazz, évidemment. On crée le jazz funk, mais ce qui plaira le plus au grand nombre, c'est le jazz rock. Et oui, nous avons cité déjà Davis et Zappa, mais n'oublions pas Weather Report ou bien sûr Herbie Hancock.
Thank you.
Et puis, dans la suite logique du jazz fusion, arrive le smooth jazz, qu'on pourrait appeler le jazz pop, variante très accessible au grand public et très commerciale. Les puristes du jazz ne considérant même pas ce style comme du vrai jazz, mais seulement de la pop musique qui ressemble vaguement, dont les médias auraient donné le nom smooth jazz. Nous pouvons aussi citer le jazz rap ou jazz hop, mais nous en reparlerons sûrement dans l'épisode consacré au hip-hop qui viendra. Dans les années 80 arrive aussi l'acid jazz, né au Royaume-Uni, qu'on pourrait qualifier de jazz électronique. Et puis dans les années 90 vient le New Urban Jazz, ou New Jazz, qui pousse encore plus loin les dimensions électroniques dans le jazz. Mais ça nous laisse où tout ça, nous, maintenant ? Que retient-on du jazz ? Eh bien d'abord, le jazz sous ses différentes formes perdure, et les Français sont plutôt bons. Je citerai par exemple un de mes artistes préférés, Eric Truffaz, trompettiste qui sait parfaitement incorporer des éléments hip-hop, rock ou drum and bass, Django, dans ses musiques depuis les années 90, tout en gardant une authenticité jazz qui fait du bien. Et puis le jazz a été à la base d'énormément de styles musicaux, nous le verrons tout au long de cette série. Mais sans jazz, l'histoire de la musique aurait été radicalement différente. Si vous aimez un style de musique qui existe aujourd'hui, vous pouvez dire merci au jazz.
Before I fling my swing, I got the word sound checking, directed. Full circle, verbal dialectics. Language is my virus, get infected. It got to be respected as a peaceful disease to wreck the beast when it's the least expected. We release new forms like Ronnie Size and Alex Reese. Straight out the jungle like the JBs. We are niche like white fire, one love forever. As long as we still breathe, it shall only increase in depth, in intensity, in strength and degrees. Like global warming and natural catastrophes. Word is born indeed, free form and potential. Building up from the essentials, that's what I call common sense. From the mentor, eventually the gentle shall be defeating the detrimental. For real, show is a permanent task. We stand firm and determined to last and surpass the vermin that's crossing our path. Trying to mash up our goals, but we bold and we hold on fast. We have the carriage, a heavy, heavy load. The road is long and narrow, full of bends and slopes, full of sticks and stones, but they can't break a bone. So let's stick this Jones out till we're living it in the right direction.